Émile Blémont, La foire de Ménilmontant. Avez-vous été à la foire de Ménilmontant? Non, je suppose. Paris est si grand, Ménilmontant est si loin, et tout le monde a tant de choses à faire tous les jours. Eh bien, vraiment, le spectacle vaut le voyage. Et si vous n'avez pas été là-bas, ou plutôt là-haut, dépêchez-vous d'y courir. Jamais je n'ai vu foire aussi vivante, aussi mouvante, aussi grouillante, aussi étourdissante. Qu'on s'imagine les anciens boulevards extérieurs couverts sur un parcours de plus d'un kilomètre de baraques, de boutiques et de curieux. Il tombait d'une pluie fine, pénétrante et tiède, quand le hasard, sinon la providence, m'a gracieusement offert la vue de cette kermesse parisienne. Sur les trottoirs, sur la chaussée, on pataugeait dans une boue brune et grasse, particulière aux rues et boulevards de notre chère capitale. Mais le brave peuple de Paris n'avait pas été arrêté par si peu de choses. La foule était compacte et l'on pouvait à peine avancer. Nous barbotions à qui mieux. Les gens hardis se laissaient mouiller avec vaillance. Les délicats manœuvraient avec dextérité le pépin bourgeois, et à perte de vue, c'était une mer houleuse de parapluies de toutes les couleurs. Un rimeur de tragédie eût cru voir une armée antique monter à l'assaut en faisant la tortue. L'eau tombait donc sans fin, mais bah, cela n'empêchait point la parade, et de tous les côtés, c'étaient des cris, des fanfares, des roulements de tambours, des carillons de cloches, des sifflements de machines à vapeur. Le public riait de tout. À défaut du soleil, le rire éclatait la fête, et la fête se déroulait gaiement entre les maisons hautes et sombres, sous un ciel gris et bas qui semblait fondre en larmes. De tous les côtés, on se sentait sollicité, attiré, provoqué, accaparé. Mais par qui, par quoi commencer? Mais où entrer d'abord? Que de choses pittoresques, de paillettes dans la boue, que de yades, que de boniments. Des hommes, des bêtes, des femmes, des masques, des enfants, des inventeurs et des automates, des pierrots et des colombines, des forçats et des gendarmes. Marion Delorme et Hernani, d'après Hugo et Deveria. Des mannequins, des lutteurs, des queues rouges, des talons rouges, des peaux rouges, du blanc, de la poudre, des mouches, des assassinats, des tableaux vivants, des toiles peintes, des charlatans, des marchands de gaufres et de chaussons aux pommes, des arabes à burnous, des indiens à plumes, Nana Saïb et Guillaume Tell, Jeanne d'Arc et la Pompadour, les orgues de barbarie à la vapeur ou à l'électricité, des dompteurs et des flibustiers, les pirates de la savane et rocambole, des chevaux, des chiens, des singes, tous savants, et au milieu de tout cela, sous des banderoles flottantes, entre Hoche et Marceau, non loin du président Lincoln, parmi les enseignes rouges, bleues, vertes, jaunes, violettes, tricolores, multicolores, telles qu'une reine entourée de son cortège, la fille de Madame Angot, l'éternelle fille de Madame Angot, avec sa suite de Fort de la Halle à tresse blanche et de Poissarde le poing sur la hanche. Puis plus loin, ô miracle, une autre fille de Madame Angot et une autre encore. Madame Angot fait tous les jours des enfants. Napoléon le premier lui décorait, mais au fait non, car tous ses enfants sont des filles. Ma foi, je me décide. Me voilà sous une tente où on lutte à main plate. J'entre. À moi les lutteurs. Je fouille dans ma poche. On refuse mon argent. Les spectateurs ne payent qu'en sortant s'ils sont contents du spectacle. À la bonne heure. Sous la toile basse, à double pente, couvrant un assez vaste parallélogramme, sont assis des curieux, sur les épaules desquels d'autres curieux se penchent. Des blouses bleues partout, Beaucoup de gamins croquant des choses crues, ricanant, se trémoussant, criant, glapissant. Et au milieu, une espèce de rond-point sablé. C'est là qu'a lieu la lutte. Mais diable, il pleut encore sous cette tente. Oui, le soleil détrempé, on voit luire vaguement des flaques d'eau boueuse. La toile humide, lourde, saturée d'eau comme une éponge, laisse filtrer sur tous les chapeaux et sur toutes les casquettes de grosses gouttes. À des endroits, on dirait une gouttière. Et pas moyen d'ouvrir le plus petit, en tout cas, ce serait d'un mauvais goût suprême. On serait honni, hué, chassé peut-être. Résigne-toi, mon couvre-chef. Ô mon paletot, résigne-toi, vous sécherez plus tard. Un Hercule, en caleçon pailleté et en maillot blanc, interpelle la galerie et crie « Qui veut lutter? Qui veut lutter contre Marc-Antoine Triceps? La lice est ouverte, engageons les paris !» Un homme en blouse s'avance et se propose. Affaire entendue. En un clin d'œil, il ôte blouse et chemise et le voici qui se produit nu jusqu'à la ceinture. Un hurrah s'élève. C'est Bibi, vive Bibi, Bibi vaincra. On parie pour ou contre Bibi. Bibi tend la main à Marc-Antoine Triceps. Ils font un tour sans se perdre des yeux. Chacun se campe dans l'attitude du combat. Ils se joignent, ils se tâtent, ils se frottent. Ils se pétrissent les mains et les bras en guise de prélude. Ils se saisissent, ils s'empoignent à bras le corps, ils se soulèvent l'un l'autre. Ils se prennent à la tête, au cou, à la ceinture. Ils tombent à genoux, ils se relèvent, ils sautent sur leurs jambes et se remettent en position. L'attaque recommence, plus vive, plus pressante. Les corps en sueur se tordent, se massent sous les étreintes. Ce sont des feintes, des parades, des fausses chutes, des reprises. Bibi tient Marc-Antoine sous lui, par les épaules. Marc-Antoine se retourne et Bibi le repince. La chair glisse, lui, se ramasse, s'étale, se tend. Bibi recule jusqu'à la galerie, puis il fait reculer Triceps. Grand cri, bientôt Bibi tient Marc-Antoine à la renverse. La tête et les jambes pendantes, la poitrine saillante sur son genou. Il n'a qu'à retirer le genou et Triceps est vaincu. Mais il a beau essayer, il ne peut, et Triceps lui glisse entre les bras comme une couleuvre. Oh, ils y mettent de l'acharnement à présent. Ils sont plus là, plus lourds, mais plus terribles. Hardi Triceps, bravo Bibi, hip hop! Triceps est sur le sable. Tumulte effroyable, clameurs universelles. Il a touché! Bibi se rhabille en deux temps, touche, lui, ses 10 francs de mise ou de pari, et file victorieusement. Avale quelque chose de chaud, Bibi, tu l'as bien mérité. La lutte est finie, le défilé de la sortie commence, on monte de l'intérieur sur les planches des tréteaux et on redescend à l'extérieur les marches de bois glissantes. Où aller maintenant? Regardons. Les 3 filles Yango se font concurrence. Toute la troupe s'exhibe sur le balcon de chacun des 3 théâtres. Ange Pitou, en pèlerine et en bottes à revers, pose pour le torse et le jabot à côté d'un jocrisse soufflant dans un petit fifre noir au sifflement suraigu qui vous pique le tympan comme des coups d'aiguille. Les muscadins, en cravate haute, en frac vert pomme à longue basque tombante et filée, s'avancent, la grosse canne torse au poing, le grand chapeau en arcade sur les yeux et les cheveux plein le visage. Près d'eux, caracolent, sans monture, les hussards d'Augereau, coiffés sur l'oreille de leur petit tonneau. Chœur des conspirateurs, valse à l'orchestre, ben passons. Entre les trois filles Orgot, mon cœur balance. Je ne veux pas faire de jalouse. Musée d'anatomie, oh, passons encore, je n'aime pas les squelettes, vive la crémation. Cosmorama historique. Oh, Joseph II, oh, Henri IV, oh, Tsar Alexandre, je vous connais trop bien. Pas d'histoire, des histoires, s'il vous plaît. Mécanoscope moderne. Fi donc, monsieur le canoscope, pourquoi n'avez-vous qu'un seul cas? Faites-vous si peu de cas de vous-même? Vous et vos vues à travers un carreau rond, vous avez l'air trop sage. Allez, je cours au baïonnaire d'en face. Bon, c'est encore une fille Angot. Encore des incroyables et des hussards à tresse et à petit tonneau. Une fille rousse, environnée d'une toison de gaze blanche, chiffonnée et déchirée par-ci par-là, voltige sur la galerie. Elle fait des ronds de jambes, des pointes, tourne, tourbillonne et se livre à une foule d'exercices gracieux avec une visible satisfaction. En avant la musique! Le tambour bat, le fifre pique, la trompette sonne. Une autre déesse, brune celle-ci, en jupe très courte et très évasée, son maillot rose dessinant une jambe bien cambrée et une cuisse bien arrondie, agite gravement à toute volée une cloche au clair tintement et, ce faisant, mord de tout son clavier dentaire dans un large morceau de flanc. Je vous envoie un baiser, déesse. Pénétrons-nous dans la grande ménagerie lozérienne où règne et gouverne l'illustre et intrépide auteur. Donc, il est un peu tard. Bon, allons plus loin. Mais qu'est-ce qui siffle comme ça? Sur les planches, dit en grosses lettres cette inscription, « Histoire des bagnes ». Une machine à vapeur est installée sur des tréteaux. Un homme à large côtelette noire surveille la vapeur et la foule. La foule regarde et admire. La machine marche, siffle, 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 et met en mouvement toute la boutique. L'orgue qui joue la marche des contrebandiers de Carmen, les petits forçats vêtus de rouge qui se courbent et se redressent entre les roues gigantesques, tels que les singes travestis, et l'homme à côtelette noire, sévère comme le gouvernement. La vue du bagne moralise les populations, on l'espère du moins. De grands tableaux représentent des évasions maritimes, des condamnés suspendus à des échelles de cordes, ramant dans une barque, nageant au sein des flots, et des soldats les traquant, les tenant en joue, les exterminant. Aimable vision, poétiques idées. Ah, voilà qui est bien plus joli. Ce n'était que le bagne, c'est l'enfer maintenant. Oh, le beau diable, à sceptre en fourche, à couronne dentée, à large manteau de pourpre brodé de noir. Et comme il porte au front majestueusement, mais avec amabilité, ses petites cornes dorées. La musique des parades fait rage, le tumulte de la cohue augmente. Le diable ne peut plus se faire entendre. Il se penche, rouge comme une forge, bouche énorme, voix enrouée, sur le public incrédule, étend le bras, ouvre sa main toute grande, replie le pouce dans la paume et, montrant, se secoue en promenant en tous sens ses quatre gros doigts velus, avertit les passants que l'entrée en enfer ne coûte que 4 sous. 4 sous, 4 sous. Après l'enfer, le ciel. Ah, voici la grotte de Lourdes transformée en tir au macaron. Quand on tape dans le noir, la boîte du fond s'ouvre et une petite fille en costume pastoral apparaît. Au fond de la cabane est inscrite cette légende dont les lettres forment un gracieux arc en paradis. Ouvrez-moi la porte des macarons, des fleurs et des mille lyritons. La bergère vous les apporte. Hein? Les mirlitons au ciel. Je croyais qu'on y était condamné à la harpe à perpétuité. Mais il pleut de plus en plus fort, comme chez Nicolet. Nous voilà tous trempés. Entrons boire au premier gîte venu un bon verre de punch entre ce lusignant tout flambant, descendu d'une pendule dorée pour jouer Zahir, et ce pauvre Pierrot tout blême qui exprime d'une façon si expressive sa soif immense. Allons, mes petits enfants, laissez-moi passer. Quittez, jeunes baladins en suffrage, quittez le joli ruisseau où vous vous êtes assis sans façon sur votre derrière pailletée. Voici un sou pour acheter de la consolation. Et dirigeons-nous vers l'odeur du dîner. Adieu, filles angots, forçats, héros, femmes rousses qui fêtent des pointes, femmes brunes qui sonnaient la cloche en croquant du flanc. Adieu, hoche, éconoscope humanitaire, adieu, ciel et enfer. J'ai hâte de suspendre mon paletot ruisselant à la patère familiale. Mais vous êtes pittoresque, même et surtout sous la pluie, dans la boue. Et je vous aime, ô saltimbanque du boulevard, ô les plus naïfs et les meilleurs des saltimbanques.